France Info.
Des emails du Parti démocrate d'Hillary Clinton piratés pendant la campagne américaine en 2016. Le site d'En Marche hacké juste avant le second tour de la présidentielle française l'année dernière. Des ministères allemands pris pour cible eux aussi via leurs systèmes informatiques. Ce genre de cyberattaque s'est multiplié ces derniers mois et l'ANSSI nous en offre un aperçu dans son rapport 2017. L'ANSSI, c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et vous en êtes le directeur général, Guillaume Poupard. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nicolas Arpagian est en ligne également. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directeur scientifique à l'Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, auteur d'un Que sais-je sur la cybersécurité. Alors Guillaume Poupard, la démocratie est la nouvelle cible de la cybercriminalité.
Cybercriminalité, voire je ne sais pas trop quoi, d'État.
Aujourd'hui,
cyberguerre, on peut mettre un petit peu tous les mots qu'on veut derrière cyber, ça marche, malheureusement. Aujourd'hui, partout il y a de l'informatique, partout il y a du numérique, partout on utilise des moyens modernes de communication, on peut être à la merci, si on ne se protège pas bien, d'attaquants qui peuvent être des attaquants mafieux, qui peuvent être des États dans le cadre de conflits déclarés ou non déclarés, ce qui nous pousse très clairement à nous protéger avant tout, parce qu'on est incapable même d'énumérer l'ensemble des menaces possibles qui peuvent nous tomber dessus.
Ça veut dire que c'est sur Internet maintenant, de manière dématérialisé, que se passe la guerre essentiellement, beaucoup plus que sur le terrain.
Il y a vraiment deux choses. D'abord, il faut bien comprendre que la partie guerre de l'information prend aujourd'hui une proportion de plus en plus importante. Ça n'écarte pas, évidemment, les moyens de plus classiques de combat ou d'influence. Tout ça, évidemment, se cumule. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nos informations ont énormément de valeur. Ils ont de la valeur pour nous, ils ont de la valeur pour nos ennemis également. Et de plus en plus, on va observer, ce qu'on observe déjà depuis plusieurs années, des attaques qui visent à voler cette information, mais pour faire du renseignement économique. Par exemple, pour gagner un avantage, voler de l'information pour nous faire chanter, par exemple, c'est le cas de beaucoup de groupes criminels qui ont fait parler d'eux, et puis voler de l'information, par exemple, à des équipes de campagne, à des partis politiques.
Pour influencer le sort d'une élection.
Par exemple, on est obligé d'en tenir compte aujourd'hui.
Et ça se traduit parfois de manière très concrète, par exemple, en France, je disais tout à l'heure, des données ont été volées juste avant le second tour de la présidentielle sur le site du parti d'Emmanuel Macron, En Marche, et puis le vote sur Internet des Français de l'étranger a été carrément supprimés lors des élections législatives.
Ce sont deux sujets très différents. Dans un cas, ce sont des boîtes mail qui ont été attaquées, qui ont été divulguées afin de porter atteinte, peut-être de créer du trouble au moment de l'élection, de porter atteinte à l'image de certains collaborateurs du candidat. Malheureusement, il faut s'y habituer. De fait, les conséquences ont été très faibles parce que l'équipe de campagne En Marche qui était préparée, comme l'ensemble des équipes de campagne avec qui on avait pu échanger des mois auparavant, en tenant compte justement de l'expérience de l'élection américaine qui avait un peu montré la voie et montré les risques nouveaux face auxquels on était confrontés.
On va parler justement de la prévention et de la sensibilisation, mais est-ce qu'on a un moyen de savoir, Nicolas Arpagian, est-ce qu'on peut savoir qui est derrière ces attaques? La Russie est souvent pointée du doigt, est-ce que c'est le cas?
Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas, comme dans l'affrontement conventionnel, avec des personnels en grand nombre qui ont besoin de mobiliser des matériels. En fait, il faut distinguer en matière de cybersécurité ceux qui vont concevoir les outils malveillants et ceux qui peuvent les exploiter.
Oui.
Enfin, il y a également la catégorie de ceux qui vont passer commande ou qui vont les louer. Donc, on a vraiment affaire même à des logiques de mercenariat numérique. Ce qui est vrai, c'est que l'omniprésence des systèmes d'information va démultiplier le nombre de cibles, c'est-à-dire d'équipements aussi bien de nature administrative dans les organisations d'État, dans la sphère militaire, mais également dans les entreprises, quelle que soit leur taille, leur localisation et surtout leur secteur d'activité. Donc on voit bien qu'on rompt un peu avec la logique historique d'avoir des cibles militaires ou des cibles étatiques. On va pouvoir démultiplier les points de faiblesse. Donc ça oblige à revoir la question de la sécurité des actifs essentiels qui convient de protéger. C'est une nouvelle forme d'organisation qui mérite d'être justement prise en compte.
Et sur les auteurs, je comprends qu'ils sont difficiles à identifier, évidemment, mais la Russie a été accusée dans la campagne américaine, dans la campagne française, dans les attaques contre le Parlement et plusieurs ministères allemands. Est-ce que Moscou mène une politique d'ingérence au sein des démocraties occidentales ?
Alors, la Russie, comme le fait la Chine, comme le fait les États-Unis, développe en fait leurs intérêts stratégiques. Et dans ces intérêts stratégiques, il y a la nécessité de disposer d'une expertise numérique. Pourquoi ? Parce que on va pouvoir, sur ce théâtre, mener des actions qui ne correspondent pas aux attaques classiques conventionnelles, dans lesquelles on peut plus facilement, plus matériellement établir l'origine de l'attaque. Donc, en quelque sorte, là, les États, et quels qu'ils soient, et quelle que soit leur taille, peuvent avoir intérêt à développer ce moyen d'action qui ne voit pas leurs responsabilités engagées sur la scène internationale parce que, comme vous venez de le décrire, la question de l'imputabilité, oui, la détermination de la preuve va être très difficile. En clair, ils ont tous les avantages du bénéfice opérationnel, c'est-à-dire le fait qu'on puisse leur attribuer l'action sans en avoir les responsabilités.
Et d'ailleurs, on peut imaginer que les puissances occidentales en fassent d'eux-mêmes.
Elle serait défaillante si elle ne développait pas une expertise offensive, puisque effectivement, d'ailleurs, avec l'offensif, on développe une culture de la protection, mais c'est surtout que la preuve, c'est que même la France a créé un état-major, un cybercom, un état-major cyber, et a fait en sorte de développer une expertise. Ce serait une faute que de ne pas investir ce champ-là au regard de l'omniprésence des systèmes d'information dans nos organisations, et surtout dans celles potentiellement de nos adversaires, oui, ou de nos compétiteurs. Donc ça s'impose aujourd'hui dans toutes les stratégies nationales de sécurité, à l'instar de celles que la France a rendues publiques il y a quelques mois.
Guillaume Poupard, vous disiez tout à l'heure, c'est une bataille de communication avant tout. Dernier exemple aujourd'hui, donc chacun s'accuse mutuellement. Aujourd'hui, ce sont les États-Unis et le Royaume-Uni qui dénoncent une cyberactivité malveillante de l'État russe, sans doute en réponse aux frappes occidentales en Syrie. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ?
C'est une bataille de communication, mais pas seulement. Je voudrais quand même revenir là-dessus avant tout. On est dans le monde du numérique, tout ça peut sembler très éthéré. En pratique, ce qui est ciblé aujourd'hui, ce sont certes des boîtes mail, donc de l'information, mais pas que. Aujourd'hui, nos grandes priorités, c'est la protection de ce qu'on appelle les infrastructures critiques. Par le biais de l'informatique, du numérique, on peut toucher des choses très réelles, oui, dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'industrie. Donc l'idée, c'est bien de se protéger contre tous les types de menaces, et ils sont très nombreux. Pour aller plus directement sur votre question, Nicolas Hervagian l'a bien dit, cette question de l'attribution, elle est très complexe. Aujourd'hui, dire avec certitude c'est un tel qui m'a attaqué, c'est très compliqué à faire.
Et d'ailleurs, ça pose la question de savoir si les États ont eux-mêmes les informations. Quand les États-Unis et le Royaume-Uni aujourd'hui donc accusent l'État russe, est-ce qu'ils peuvent le dire avec certitude ?
La seule certitude que j'ai, c'est que faire de l'attribution, dire c'est un tel qui m'a attaqué, ce n'est pas une décision technique, ce n'est pas uniquement lié au renseignement, c'est une décision politique. Oui. Une décision politique qui prend un ensemble d'éléments en compte, des éléments techniques, de renseignements, des éléments judiciaires éventuellement dans certains cas, et à la fin il y a une décision. On n'est pas forcément tout à fait sur la même stratégie. L'idée étant bien, je vais parler uniquement pour la France bien évidemment, de voir comment faire pour mieux se protéger, continuer à se protéger face à ces attaques, et ça, la meilleure défense reste la défense, il n'y a aucun doute là-dessus, et ensuite comment faire cesser certaines attaques, et dans ces cas-là, l'attribution publique n'est pas forcément la stratégie la plus efficace. On peut notamment parler de diplomatie qui n'est pas publique, qui peut être beaucoup plus efficace dans certains cas.
Vous restez avec nous, Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui publie aujourd'hui son rapport sur la cybercriminalité et sur les menaces qu'elle fait peser sur les démocraties notamment. Nicolas Hervagian, vous restez avec nous également. On poursuit cette discussion juste après l'essentiel de l'info à 13h20 et c'est avec Laurent Sénéchal. La démocratie, les démocraties menacées par les attaques informatiques, c'est l'une des conclusions du rapport annuel de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dont le directeur général Guillaume Poupard est toujours avec nous. Ce qui ressort de ce rapport, c'est que ces attaques sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus complexes à contrer.
Ça, on peut faire confiance aux attaquants pour continuer à s'adapter à nos défenses. Et il ne faut surtout pas baisser la garde. Le message que l'on porte avec force auprès de beaucoup de victimes potentielles, c'est bien que aujourd'hui, la cybersécurité, ça va devenir un enjeu majeur pour tout le monde. Tout le monde est concerné de près ou de loin par les questions numériques. Et se protéger, ça veut dire prendre en compte ces menaces, mettre des barrières au bon niveau et ensuite être extrêmement agile pour détecter ces attaques le plus tôt possible. Et ça, l'avantage, c'est que c'est efficace. Fondamentalement, oui. On sait que c'est efficace. Et dans les cas opérationnels graves que l'on traite, c'est-à-dire quand les attaques ont réussi, on se rend compte que ça aurait été possible de les éviter pour pas très compliqué.
Vous disiez justement tout à l'heure que pendant la présidentielle française, donc l'année dernière, vous aviez sensibilisé les partis politiques à ces menaces. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement sensibiliser les
Sensibiliser, c'est très simple. Ça veut dire
d'une
part. Qu'est-ce
qu'ils peuvent faire, eux, c'est ça que je veux dire.
Mais déjà, il faut prendre conscience de la menace pour réagir. Donc ça passe par de la pédagogie, par de l'explication, ça fait partie de nos missions. Et ensuite, il faut sécuriser les systèmes autant que possible. Oui. Bien évidemment, dans le cas d'une équipe de campagne, c'est une start-up, une équipe de campagne. C'est très compliqué à sécuriser. On ne peut pas sécuriser une telle équipe comme on sécurise une entreprise du CAC 40, une entreprise qui est bien établie avec de gros moyens. Donc, avant tout, il faut bien comprendre quelles sont les vulnérabilités potentielles de ces systèmes numériques. Et système numérique, c'est un terme très, très technocratique pour parler des smartphones qu'on a dans la poche, de l'ordinateur qu'on a à la maison. Savoir qu'est-ce que l'on peut faire avec ça et ensuite qu'est-ce que l'on ne doit pas faire avec ça. Et il faut bien que tout le monde comprenne que même en 2018, il y a certaines choses qu'on ne s'envoie pas par mail. Et si on a des choses sensibles à se dire, on laisse les téléphones de côté et on le dit de vive voix.
Alors, les cyberattaques, c'est comment ? Ailleurs, on va voir ça avec Gérald Roux. Bonjour Gérald.
Bonjour à tous.
On a parlé de l'exemple français, de l'exemple américain, de l'exemple allemand. Vous nous emmenez, Gérald, en Corée du Sud, qui a particulièrement souffert de ce genre de piraterie informatique.
Oui, la Corée du Sud a été victime d'attaques de grande ampleur depuis une dizaine d'années. Il faut dire qu'elle est particulièrement visée par son voisin, la Corée du Nord. Les pirates informatiques nord-coréens sont parmi les plus agressifs au monde, si on en croit les Américains de FireEye, qui est une société spécialisée dans la cybersécurité.
Et les premières attaques remontent donc à une dizaine d'années.
Oui, en 2008, la Corée du Sud reconnaissait qu'elle avait été victime cette année-là de 24 000 cyberattaques. Plus tard, en 2012, c'était 40 000. En 2009, le pays a particulièrement souffert d'une cyberattaque nord-coréenne d'envergure. Cette année-là, les pirates ont attaqué les réseaux informatiques des administrations, avec le blocage ou le ralentissement des sites du Parlement, des ministères de la Défense, des Affaires étrangères et même des services secrets. Et dans le monde de la finance, le site de la plus grosse banque du pays a été paralysé.
Et ça ne s'est pas arrêté là.
Non, 2011, une nouvelle attaque vise le secteur bancaire sud-coréen. Les relevés de 5,5 millions de titulaires de cartes de crédit sont effacés temporairement. La banque visée ne peut plus facturer les clients et régler les paiements des commerçants. Puis en 2013, ce sont 3 chaînes de télé et 2 banques dont les réseaux informatiques sont visées, distributeurs de billets bloqués, tout comme de nombreux ordinateurs.
On a le sentiment que la Corée du Sud est particulièrement vulnérable. Pourquoi ?
Parce que c'est un pays qui est hyper connecté avec les réseaux mobiles les plus étendus au monde, des vitesses de transmission de données ultra rapides. La Corée du Sud, il faut le rappeler, c'est quand même le pays de Samsung qui domine le marché du mobile avec Apple. Et puis au nord, de l'autre côté de la frontière, il y a l'ennemi, la Corée du Nord, bien moins développée sur le plan technologique, mais qui abrite des milliers d'informaticiens mobilisés dans la guerre informatique.
Cela dit, tout de même, les Nord-Coréens ne sont pas responsables de tous les malheurs informatiques de leurs voisins du Sud.
Effectivement, les pirates sont aussi présents en masse en Corée du Sud. Par exemple, en 2014, les Sud-Coréens se sont aperçus que les données de 100 millions de cartes de crédit avaient été volées en quelques années, 20 millions de comptes bancaires piratés. À ce moment-là, prise de panique, plus de 2 millions de personnes ont bloqué ou changé de carte. Le voleur des données était un consultant du secteur bancaire sud-coréen. Il a été arrêté.
Merci Gérald Roux. Nicolas Arpagian, vous êtes toujours avec nous. On a évoqué les menaces pour les démocraties, pour les États, mais là on entend bien dans ce que vient de nous dire Gérald Roux que les banques, par exemple, ou les médias sont visés également.
Oui, parce que d'une part, si vous êtes à des fins d'agitprop, de propagande, le média va être une caisse de résonance, puisque d'une part, il va être interrompu, surtout ses confrères vont être amenés à traiter l'information, donc vous amplifiez la diffusion de votre message. Ensuite, les États peuvent l'utiliser à des fins crapuleuses, c'est-à-dire également pour récupérer de l'argent, récupérer des secrets économiques. Oui. Gardez à l'esprit qu'une partie de la compétition aujourd'hui, même dans le camp occidental, se fait quand même largement sur des fins et sur des terrains économiques avec des ambitions en termes d'emploi, en termes de concurrence, donc ils sont extrêmement compétitifs. Et enfin, le fait qu'on peut à cette occasion porter des coups à son adversaire, élargir le champ de la discussion diplomatique de manière à créer une pression supplémentaire sur ses interlocuteurs. Donc évidemment, le duel sud et nord-coréen est un théâtre à part entière, mais c'est surtout de comprendre que, en tout cas, il faut avoir cette connaissance du numérique offensif et donc défensif, de la même manière que nous nous sommes appropriés les usages, j'allais dire commerciaux, les usages éminemment civils du numérique. Il est important d'inclure cette culture de sécurité chez les dirigeants économiques, chez les responsables, les entrepreneurs, mais également dans l'opinion publique, de manière à ce que, à la mesure de ce que l'on confie à ces systèmes d'information, oui, à ces smartphones que vous mentionniez, justement, il y ait cette prise de conscience et cette responsabilisation toute personnelle pour limiter, faute de pouvoir l'empêcher, l'exposition au risque.
Justement, Guillaume Poupard, qu'est-ce qu'on peut dire aux utilisateurs lambda, comme vous et moi, en tout cas comme moi, parce que vous, vous y connaissez mieux que moi, aux utilisateurs qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour se prémunir de ces attaques?
Il faut vraiment, dans sa vie personnelle, il faut vraiment faire preuve d'une saine paranoïa. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre confiance dans les outils numériques. Par contre, attention aux mails qui sont un peu bizarres, attention à vos mots de passe, attention à vos clés USB, attention à tout ça. On a des guides sur le site internet de l'ANSSI, par exemple, qui peuvent justement, en quelques pas, comme ça, expliquer quelles sont les erreurs à ne pas faire. Et déjà, si on fait ça, on est quand même largement protégé.
Merci beaucoup de nous avoir répondu, en tout cas aujourd'hui. Guillaume Poupard, directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. C'est donc l'ANSSI dont vous nous encouragez à consulter le site internet. Merci à vous, Nicolas Arpagian. Également, je renvoie nos auditeurs à votre Que sais-je sur la cybersécurité. Merci à vous, Gérald Roux.